Ça va toi aujourd'hui?
Je me sens bizarre.
Qu'est-ce qui se passe?
Je suis pas du tout, je te chute.
Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme je suis en train de raconter.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce qu'on raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence radio. La radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes sur Silence Radio, sur les ondes de Radio Panique. Alors, nous avons en studio nos chroniqueurs bien-aimés, entre autres Miss Vertigo, alias Aline.
Bonjour.
Gwendoline, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Yannick.
Salut.
Thomas.
Bonjour.
Voilà, et moi-même, Pascal, avec deux invités en studio aujourd'hui. Je vous les présenterai tout à l'heure, puisque la question d'abord, c'est le Pianoctel est-il en danger de fermeture définitive? Le bistrot culturel bruxellois, implémenté dans les Marolles, au 304 rue Haute exactement, est fermé, on l'espère, provisoirement. Le CPS de Bruxelles, propriétaire du lieu, a décidé de mettre fin au bail du bistrot le 30 septembre prochain. En cause, deux courriers, l'un émanant de la cellule Horeca et l'autre du CPS de Bruxelles. Alors, comme je vous le disais, pour nous en parler, nous avons invité Aline Rigaud, que vous connaissez bien, puisqu'elle est chroniqueuse à Silence. Elle est ici sous la casquette de co-coordinatrice du Pianoctel. Nous avons aussi en studio Chantal Van Erewegen, qui est une habituée du Pianoctel. Et enfin, Jérôme Jolibois, qui est conseiller écolo au CPS de Bruxelles. Alors, la première question, elle est posée à Aline. Comment est né le Pianoctel et quelle en est sa philosophie? Est-ce que ça vient d'un collectif citoyen, d'une institution sentimentale? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Tu peux nous expliquer tout ça.
Le Pianoctel, il est né de la rencontre entre une institution en santé mentale qui est le Centre Antonin Artaud et un collectif citoyen qui est le collectif Avif. Et l'objectif, c'était un peu de trouver à la fois un lieu qui était autre que des centres de santé mentale, centres de jour ou quoi, où les gens peuvent se poser avec des horaires aussi un peu plus décalés, et aussi de vivre une expérience assez singulière parce que tout se fait en autogestion au Pianoctel tout se déroule autour aussi d'une assemblée participative qui se déroule tous les mois, tous les troisièmes mardis du mois. Et c'est un peu le cœur du Pianoctel. C'est là que toutes les personnes qui s'impliquent au Pianoctel viennent pour proposer des activités. On discute de l'organisation, de ce qui fait vivre le Pianoctel. Voilà.
Une assemblée participative, ça veut dire que le Pianoctel n'est pas une ASBL ou bien c'est une ASBL un peu particulière?
C'est une ASBL, qui est aussi donc avec un CA, une assemblée générale, mais où les prises de décision se prennent au sein de l'assemblée participative. Et après, le CA peut toujours, par rapport à une décision, donner son veto et venir le réexpliquer. Les choses se rediscutent alors.
Quelles sont les autres spécificités du Pianoctel? Peut-être le fait que ce sont des bénévoles, par exemple, qui y travaillent.
Une des grandes spécificités du Pianoctel, je pense que ce qui rassemble les gens, c'est d'abord qu'ils font le choix d'une implication personnelle, et aussi que ce sont toutes des personnes qui se sentent touchées de près ou de loin par les questions de santé mentale, que ce soit parce qu'elles ont eu un parcours en psychiatrie ou quoi, ou qui se sentent peut-être plus à côté de la société classique et qui...
En fait, c'est un bistrot qui est ouvert à tout le monde.
Oui.
Voilà, c'est pas seulement des personnes qui ont un passé ou qui sont dans des difficultés psychiatriques ou psychologiques ou quoi que ce soit. Vous ne vous réservez pas le droit d'entrée, comme on dit, non?
Non.
Il n'y a pas de discrimination.
Il n'y a pas de discrimination. Avant de passer peut-être la parole tout à l'heure à notre deuxième invité, donc Jérôme Jolibois et les deux autres invités, donc et Chantal, vous avez fêté les 8 ans du Pianoctel. Peut-être Chantal, toi qui es habituée du Pianoctel, qu'est-ce que tu as vécu toi en 8 ans ?
Ah, beaucoup de choses. Tout d'abord, une belle rencontre avec avec un lieu autre qui permet aussi d'être comme un sentiment de, comment dire, de la, une communauté qui se retrouve, qui a eu certes un passage à vide, mais qui en même temps n'est pas que lié à des soins en santé mentale, et qu'en même temps c'est une passerelle par rapport à un public qui est tout aussi avide de liens. Et donc pour moi ça a été aussi une expérience assez pertinente, dans le sens où à un moment donné, quand on va dans d'autres lieux de rencontre, c'est vrai que peut-être qu'il y a ce paramètre de santé mentale qui est plus délicat à évoquer, alors que là quelque part la couleur est sous-entendue, même si ce n'est pas la seule raison qui va faire qu'on y va. Mais souvent ça permet justement d'enlever un tabou par rapport à des situations qui peuvent sembler fragiles aussi. Et par contre j'ai aussi mis la main à la pâte, dans la mesure où que ce soit pour par moment aider notamment à participer à un événement ou être dans un événement qui a été créé le 15 décembre, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui y étaient. Et donc j'ai notamment réussi à concrétiser un rêve qui consistait à faire un concert.
Ah oui, on était là, oui.
Pardon. Moi j'avais juste un petit truc à rajouter sur Chantal, où justement, bah oui, enfin c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est chouette, c'est qu'au niveau des bénévoles, il n'y a pas de séparation entre des travailleurs qui travaillent dans la psychiatrie, que ce soit des psychiatres, des infirmiers ou des psychologues, et les gens qui sont peut-être patients ou pas patients. Tout le monde est à la même échelle. Donc,
Dans les réunions que vous faites, vous avez tous le même poids de parole. Votre parole a le même poids.
Voilà, chacun a droit de parler, chacun donne son avis, et tous les avis sont au même niveau pour tout le monde.
Ouais. C'est ça. Et les bénévoles là-bas, c'est quel genre d'activité en fait ?
Les activités, il s'agit notamment de bénévolat par rapport au simple fait de prendre part à l'organisation du lieu. Mmh. C'est-à-dire, ça peut être s'occuper du bar, ça peut être s'occuper de la cuisine, ça peut être aussi le fait de, bah, déjà d'y aller.
Et ça, les professionnels de la santé mentale le font aussi ?
Oui, tout à fait.
Donc là, vous êtes vraiment sur un même pied d'égalité.
Exactement,
aussi.
Exactement, il s'agit d'un lieu, d'une démocratie participative, et je pense que ça prend tout son sens justement pour enlever des clivages ou des distances entre les personnes. Donc ça permet une réelle rencontre aussi.
Comme il s'agit vraiment d'une implication personnelle, limite on s'en fout un peu qu'il soit professionnel ou pas de la santé mentale.
Et tu entends quoi par implication personnelle ?
Dans le sens où on choisit soit de s'impliquer dans le lieu, on est là avec tout ce qu'on est, avec notre parcours personnel ou professionnel, mais qui...
Tu as la sensation que chacun y vient en partie pour son propre intérêt, son propre besoin, son propre vécu, son propre parcours, quoi.
Oui.
C'est ça. J'avais une question aussi, je voulais savoir depuis quand le Pianoctel existe ? Si vous le savez, je ne sais pas.
Depuis 8 ans.
Depuis 8 ans.
Oui, okay. Il a ouvert ses portes en février 2010, je pense.
Et toi, et vous le connaissez depuis combien de temps ? Vous avez vu une évolution ? Vous avez vu
bien,
des moments...
Oui,
vas-y, je t'en
Pardon.
Prie.
Eh bien, moi, initialement, je le connais depuis 2012. J'en avais entendu parler via un centre de santé mentale. Mmh. Et justement, qui en parlait avec beaucoup d'engouement. Mmh. La question, c'était, je connais depuis quand ? Oui, voilà,
oui,
je connais
ça.
Depuis 2012. Et il a évolué, je trouve, dans la mesure où s'est instauré des mises en... Comment dire, des événements auxquels... je m'attendais pas forcément des collaborations avec d'autres activités, d'autres ASBL aussi. Je pense à Megaphonix notamment.
Et c'est quoi comme ASBL ça?
Une ASBL de musique, de musiciens avec des musiques métissées.
Qui sont venus jouer au Pianoctel?
Tout à fait, régulièrement.
Et au moins des jams avec nous au Pianoctel tous les mois.
Des jams, super.
Ouais. Et puis aussi, par exemple, un samedi. Par je ne sais pas à quel rythme le nettoyage ensemble du Pianoctel.
Très important.
Ça devrait être. Merci Chantal.
Essentiel. Moi j'ai vu que Monsieur Jolibois voulait prendre la parole ou.
Oui. C'est pas super important, mais c'est vrai que pour l'historique simplement du truc, c'est loué depuis le 1er octobre 2009. Mmh. Alors c'est peut-être des successions d'ASBL, d'organisations, parce que même eux apparemment ils ont du mal à s'y retrouver dans l'historique. Donc moi j'ai apparemment une décision du conseil du CPS du 30 septembre 2009 qui faisait un loyer de 18 mois pour ce lieu. Puis ensuite ça a été, il y a eu un renouvellement en 2013. Voilà, mais il y a eu des changements de structure, des changements de gérant, enfin la vie normale d'une ASBL aussi. Hein.
Merci pour ces explications bien plus précises. Et puis, je repasse la parole à Pascal.
Non, mais j'avais envie de parler un petit peu, justement, j'y avais pensé à cette façon de faire le ménage ensemble. Alors, c'est important parce que ça veut dire quand même que ce piano, c'est un ensemble de gens, c'est un collectif. Ça veut dire quoi, en fait, un collectif? Parce que nous, on a l'impression, parce que bon, Thomas, moi, Yannick, on va au Pianoctel aussi, hein, on est des habitués également, on sait ce que c'est, mais parfois les gens ne se rendent pas bien compte c'est quoi un collectif, en fait. Aline.
Mm-hmm. Peut-être. Un collectif, c'est des gens déjà qu'on rencontre. Moi, j'ai été au Pianoctel grâce à l'autre lieu et à l'atelier aussi, dans les Marolles. Et c'est des gens qu'on rencontre, et au début, voilà, on ne va pas nécessairement beaucoup s'impliquer. Une fois qu'on s'implique, c'est un collectif où il y a des relations amicales entre les gens, il y a des choses qui se créent, on fait des événements ensemble, genre moi je mixe, enfin je passe la musique au mixant au mix-soup pendant que Miss Vertigo fait à manger ou d'autres tiennent le bar. Et c'est vraiment un groupe de gens où c'est un collectif où on est tous ensemble pour faire fonctionner
porter
le lieu,
un projet,
porter le projet. Et il y a même parfois de l'amitié, où j'avais entendu à la dernière réunion, où c'est un peu chez nous aussi d'une certaine manière. Pour beaucoup de gens, en tout cas.
Ouais, pour moi, c'est des individualités qui partagent quelque chose de commun. Et du coup, avec les difficultés, enfin, à la fois tout ce que ça a comme apport et ce que ça peut présenter comme difficulté, de voir aussi comment on réajuste les choses au fur et à mesure. Voilà, il y a quelque chose aussi qui doit faire reliance entre tout ça, que ce soit à travers les activités, mais aussi à travers, par exemple, la coordination qui se fait au Pianoctel et qui permet à la fois de faire lien à l'intérieur du Pianoctel, mais aussi lien entre l'extérieur et l'intérieur, l'intérieur et l'extérieur.
Ouais. Et cette coordination, donc je pense que vous êtes trois à la coordination, comment ça se passe?
La coordination, on se rencontre deux fois par semaine et on fait un peu le point sur tout ce qui s'est par exemple discuté en assemblée participative, sur le suivi des décisions, qui s'est proposé pour faire quoi, est-ce que ça a pu être fait, de faire le programme, le diffuser. Parfois on peut être aussi traversé par des difficultés plus interpersonnelles, c'est aussi le moment pour voir si d'une manière ou d'une autre on peut interagir là-dedans, de pouvoir le faire.
Ok, merci Aline. Donc je propose peut-être de passer un petit morceau de musique et de passer donc à la deuxième partie de notre rencontre débat aujourd'hui avec Jérôme Jolibois, donc qui est conseiller écolo au CPS de Bruxelles, Chantal qui est une habituée du Pianoctel, et Aline bien sûr donc co-coordinatrice du Pianoctel.
Ça arrive.
Doucement. Ça vient.
On dirait qu'il y a un petit souci technique.
Un petit souci technique. Donc voilà, donc la musique n'a pas l'air de vouloir prendre son essor. Donc je propose de passer tout de suite à la suite de notre débat avec cette question quand même importante maintenant. Est-ce que le Pianoctel est-il en danger de fermeture définitive? Alors, pour nous en parler, donc, comme je vous le disais, nous avons trois invités. Alors, Aline, donc, coordinatrice, co-coordinatrice du Pianoctel, qu'est-ce qui s'est passé? Le Pianoctel est fermé actuellement. Est-ce que c'est provisoire ou est-ce que c'est définitif?
Ça, je pense que seul l'avenir nous le dira. Au début, on pensait à une fermeture provisoire. En fait, ça s'est passé un peu en deux temps. On a eu premièrement un courrier qui émanait de la cellule Oreca de la ville de Bruxelles, nous demandant de nous mettre en ordre par rapport à certaines choses dans lesquelles on avait peut-être du mal à s'y retrouver parce qu'on les trouvait plutôt adaptées à un café, un snack, mais pas du tout à une ASBL. Et donc, du coup, on a voulu prendre le temps aussi de se renseigner dans différents endroits, voir de quelle façon on pouvait réagir aussi pour défendre notre projet et pas se sentir pris en fait dans ce système-là. Sauf qu'on était un peu à la vitesse du collectif, ça a pris du temps. Et puis entre-temps, on a reçu un avertissement en disant que par rapport à ça, donc on était en infraction, qu'on devait se remettre en ordre. Donc on a fait le choix à ce moment-là de fermer temporairement le Pianoctel, le temps de pouvoir régler cette situation, situation qui commence à se régler. Et puis très rapidement après, une semaine après, on a reçu un courrier émanant du service des propriétés du Pianoctel, voilà, disant qu'il mettait fin, enfin c'était la fin du bail, je crois, enfin qu'il mettait fin au bail, en tout cas que c'était pas renouvelé. Et donc au 30 septembre, du coup à la lecture de ce courrier, on se voyait déjà quitter les lieux. Maintenant, on verra s'il y a encore pouvoir de changer ça ou pas.
Okay, merci. Merci Aline. Jérôme Jolibois, est-ce que vous êtes au courant, j'imagine, de cette fermeture et comment vous avez été mis au courant et qu'est-ce que vous comptez peut-être faire ou pas faire dans ce dossier?
Oui. Alors oui, c'est pas simple. Donc au conseil du CPS, bon, c'est une grosse machine. Et ce que moi je dénonce, c'est qu'effectivement ils ont une vision extrêmement gestionnaire et pas du tout sociale des choses, surtout au service des propriétés, ce qui pourrait éventuellement justifier, bien que à mon sens ça ne se justifie pas du tout. Mais c'est peut-être un débat politique. Et voilà.
Est-ce que vous pourriez juste expliquer ce que c'est que le service des propriétés en quelques secondes?
Oui, donc le CPS, la ville de Bruxelles, c'est énorme, hein. C'est 2500 employés, c'est 300 millions de budget, c'est 2000 appartements, et je sais pas combien de bail commercial. Il y en a vraiment énormément. Et donc ce service, qui a tout un département, hein, qui est séparé d'ailleurs en service des travaux, service des propriétés, qui gère les propriétés, qu'elles soient privées,
Les propriétés du CPS, alors.
Les propriétés, du parc immobilier, soyons, disons les mots, du CPS. Hein. Donc là, on parle de l'aspect commercial. Donc ils ont beaucoup de magasins, de locaux commerciaux et autres, qu'ils essayent de gérer tant bien que mal. Visiblement, c'est pas super bien suivi. Et ensuite, nous, on a des comités. Donc on est 12 ou 13 conseillers, je ne sais plus si le président compte, mais enfin voilà, c'est ça. Moi je suis dans l'opposition, je suis le seul écolo au conseil, et je ne fais pas partie du comité patrimoine. Donc j'ai pas les informations à ce moment-là, et donc une fois que le comité a traité ses dossiers, donc en général c'est assez vite, hein, c'est une réunion qui dure une heure, deux heures, quand même toutes les semaines, hein. Parce qu'il y a tellement de volume, mais ça va très très vite. Ils prennent une décision et c'est celle-là qui est mise sur l'ordre du jour du Conseil de l'Action Sociale, là où tous les conseillers sont représentés, donc où je suis présent. Et on parle que des sujets que l'un ou l'autre conseiller a relevé, ou le président a relevé. Ce sujet a été mis sur la table, mais avec un rapport extrêmement succinct. On voit bien que le suivi, il est très, 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 très sommaire. Je vous dis, je vous ai rappelé quelques dates, mais même eux, il y a des énormes trous. Donc là, ils disent que du 30 septembre 2009 au 30 mars 2011, c'était plutôt le club Antenne Artaud qui avait eu le contrat. Ensuite, il nous parle qu'il y a eu le renouvellement des administrateurs de la SBL le 30 juin 2017. C'est quand même un peu loin de 2011. Puis ensuite, dans ce rapport, on nous parle que le 23 septembre 2013, il y a eu une décision du Conseil pour exonérer les deux loyers et donc de ne payer que 50 euros de charge mensuelle, j'imagine. Je n'ai même pas cette info-là. Vous voyez, comme
tout à fait,
c'est pas
toujours
toujours super précis. Et qu'il y a eu même une autorisation de cantine végétarienne en 2010.
Oui, ça c'était pour une autre ASBL, du coup, qui occupait les lieux en journée.
Voilà. Donc, mais tout ça est tellement mis dans un texte un peu fouillis, pas dans un ordre chronologique, c'est très compliqué. Et donc, le débat n'a été finalement que technique. On sait plus trop qui est le propriétaire, enfin, qui est le locataire. Est-ce que c'est une ASBL? Est-ce que c'est un truc commercial? Il n'y a pas d'Oreca. Il semblerait qu'ils font de l'Oreca. Et, coup de chance, le bail se termine le 30 juin, le 30 septembre. Ils n'ont pas demandé le renouvellement. On peut donc mettre fin au bail. Ça a pris exactement 3 minutes. Donc il n'y avait pas du tout de discussion sur l'intérêt du projet, sur qu'est-ce que c'était, quel était le suivi, qu'est-ce que ça apportait au quartier ou même au CPS de la ville de Bruxelles, parce que pour moi ça rentre en plein dans l'objet social. Et voilà, et donc vous avez reçu...
Qu'est-ce qui rentre en plein dans l'objet social? Je n'ai pas...
Ce qui rentre en plein dans l'action sociale, c'est justement l'accompagnement social de personnes en difficulté.
C'est ça.
Ça me semble...
Oui, c'est ça.
L'article premier du CPS.
C'est ça.
Et moi j'avais peut-être aussi une autre question, parce que vous parlez du rapport qui est un fort succinct. Et pourquoi est-ce que le CPS n'a pas envoyé des courriers ou des lettres avant au Pianoctel pour... s'il y avait des choses qu'ils ne savaient pas, pour demander des clarifications, au lieu de directement...
Ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais je pense qu'effectivement, je ne sais pas comment ils ont eu vent, effectivement, du fait qu'il n'y avait pas l'attestation de conformité au RECA. Je pense que c'est ça qui a enclenché un peu le processus. Parce qu'en ils ont découvert, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il y avait beaucoup de situations irrégulières comme ça au sein du CPS. Et donc, ils essayent de vite régulariser au plus vite. Mais quand c'est des vrais commerces, je pense qu'il faut effectivement aller vite et à la force de loi. Mais quand c'est un support social qui rentre vraiment dans l'objet, on peut se permettre de prendre un peu plus que 5 minutes pour... et surtout de ne pas le traiter de façon purement... juridique et technique.
Ok, donc je propose, si ça vous va, de continuer notre débat, notre rencontre après. Un petit morceau de musique, c'est Tortoise, c'est ça?
Tortoise, oui.
Tortoise de Équator. We'll be right back. Voilà, donc nous sommes de retour en studio sur les ondes de Radio Panique, c'est l'émission Psylance Radio. Nous parlons du Pianoctel, un bistrot culturel fermé pour le moment, qu'on espère que c'est une fermeture provisoire. Alors je vous propose maintenant, une nouvelle chronique avec une nouvelle chroniqueuse, carrément. C'est Gwendoline qui nous présente sa chronique poésie, Conspiration poétique.
Oui, bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Une chronique spécialement consacrée à la poésie ce soir. Une recension pour vous, chers auditeurs. Et je vous propose de repartir à la redécouverte d'un grand auteur de poésie du 19e siècle, Paul Verlaine, et de son livre intitulé « Fêtes galantes » suivi de poèmes saturniens. Paul Verlaine est un célèbre poète de la deuxième moitié du 19e, auteur qu'on étudie encore sur le banc des écoles de langue française aujourd'hui. Né à Metz en 1844, son père est engagé dans l'armée et sa mère possède une certaine fortune familiale. Verlaine fit ses études à Paris, d'abord à l'institution Louis, puis au lycée Condorcet. Il vécut une enfance heureuse, marquée par le souvenir de ses parents, mais aussi notamment d'Elisa, une de ses cousines. Après avoir réussi son baccalauréat de droit, il s'inscrit en faculté, mais délaisse l'université pour fréquenter les cafés et des cercles littéraires, et commence alors pour lui une vie de bohème. Il publie dans une revue son premier poème, Monsieur Prudhomme. Il publie dès 1866, Poème saturnien, et dès 1869, Fêtes galantes, titre des deux livres que je vous recommande ce soir. Après un mariage, un enfant né du mariage, une séparation pour cause de violence et sa rencontre homosexuelle avec Rimbaud qu'il tente d'assassiner en lui tirant deux balles dessus, il est envoyé en prison pendant 2 années pour tentative de meurtre. À sa sortie de prison, il ressort changé, plusieurs autres pliculations auront lieu. En 1875, il s'installe à Londres comme professeur de grec, latin, français, dessin, puis ensuite comme professeur de géographie, littérature, histoire et français dans un établissement tenu par des jésuites. Il tente de rejoindre l'administration ensuite dans laquelle il avait déjà fait ses preuves. En 1884, il publie un essai remarqué sur les poètes maudits et le recueil Jadis et Naguère, ainsi qu'art poétique remarqué, car il y revendique un art sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il est alors reconnu comme un maître par les artisans du symbolisme et du décadentisme. Dans l'art poétique de Verlaine, il y évoque ses instants particuliers, tout en nuances qui mêlent beauté et une impression de vague tristesse. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. Ces deux beaux yeux verts derrière les voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis d'éclaires étoiles. L'art poétique de Verlaine se singularise par une triple exigence, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair à un art en lui qui pèse ou pose. De la musique avant toute chose, et on y reviendra, mais sans rentrer dans les détails, l'art poétique met en musique nombreux de ses préceptes et les illustre par le biais du rythme, des sonorités, du lexique et de la rime. Il s'agit non pas d'un traité de poétique, mais un regard posé sur l'esthétique en évolution constante, la poésie de l'éphémère contre le refus du dogmatisme. Il meurt en 1896, à l'âge de 52 ans. De nombreux écrivains, dont Mallarmé, Lepelletier, Moraes, rendent hommage au dernier poète lyrique de la fin du 19e. Fêtes galantes et poèmes saturiens, titres des livres que je vous propose ce soir, ont été publiés respectivement entre 1867 et 1869 chez la maison d'édition Le Maire, une quinzaine d'années après les publications de Châtiment et Contemplation de Victor Hugo et Des fleurs du mal de Charles Baudelaire entre 1853 et 1857. Fêtes galantes est un recueil de fantaisie inspiré par l'étoile des peintres du 19e que le Louvre vient d'exposer dans de nouvelles salles. Quand Verlaine publie ses 22 poèmes qui composent des fêtes galantes, l'idée de se laisser inspirer par les peintures de Fragonard, Boucher, Watteau, et plus généralement les plaisirs qu'on associe au monde de Louis XV n'est pas neuve. De fait, Hugo, Gautier, Banville avaient dans les années 50 et 60 favorisé un regard d'intérêt pour des artistes longtemps jugés superficiels et artificiels. Les fêtes auxquelles ils nous convient mettent en valeur les plaisirs de ce qu'il y a de plus sensuel. La fête galante désigne les réunions ludiques en plein air organisées par les riches aristocrates oisifs à partir de 1715 jusqu'aux années 1770. L'expression est notamment utilisée dans le cadre de la peinture française. Après la mort de Louis XV en 1715, l'aristocratie délaisse les splendeurs de la cour de Versailles pour les folies et les maisons plus intimes de Paris où ses membres peuvent s'adonner, s'ajouer, également vêtus, et à flirter ou à se mettre en scène d'après la Commedia dell'arte italienne. Verlaine s'inspire de Watteau et des autres peintres du XVIIIe pour écrire les plaisirs d'une société élégante et frivole. Dans ce recueil, l'amour est empli de badinerie et de frivolité, incarné par les personnages de la Commedia dell'arte qui rappellent ceux de Marivaux. Mais ce libertinage est un amour futile qui ne trouve pas son épanouissement. Verlaine dépeint dans Fête Galante l'univers du théâtre italien avec ses personnages emblématiques de Colombine et Arlequin. Sous le nom des Fêtes Galantes, on désignait au théâtre des personnages élégants se livrant à des songes amoureux ou à des conversations tendres. Composé de 22 poèmes au mètre rapide et aux strophes peu nombreuses, ce recueil, Fête Galante, se présente comme un recueil de fantaisie à la manière du peintre Watteau et de Fragonard, peut-être de Langrée et de Pater, où on y retrouve des jeux de prosodie.
Merci beaucoup, merci. Gwendoline, pour cette rubrique. Et je propose sans transition maintenant de passer à un micro-trottoir qu'Aline, tu vas nous présenter.
Oui, donc c'est un micro-trottoir qu'on a fait avec Gwendoline. Et voilà, donc on s'est mis en tête d'aller interviewer les voisins du Pianoctel et de leur demander un peu ce que ça représentait le Pianoctel pour eux et comment ils vivaient son éventuelle fermeture. Donc on a été interviewer nos voisins Arre et Marge, Popo qui tient le café juste à côté et Oksana qui travaille chez Récréa.
Et pour une petite précision, le micro-trottoir commence par... C'est Popo, je crois.
Popo,
c'est
je ça. Pense, oui.
C'est lancé.
En tant que voisin, je sais que Pianoctel était un voisin, un cas sympathique, où les gens qui visitent Pianoctel sont des gens que je côtoie bien. Et c'est un lieu dynamique. J'ai souvent assisté à leurs petits conseils qui se déroulent là, et à leur menu qui est presque rien du tout. Donc, voir Pianoctel disparaître... moi, ça me fera... ça serait un peu triste. Et bon, voilà.
Oui, je connais ce lieu. C'est via mes amis que j'ai découvert ce lieu. Assez chouette. C'est un café alternatif et lieu d'exposition et lieu de concert. Je sais qu'il y avait même des... il y avait des petits spectacles et de performances, etc. Mais moi-même, je me suis exposée à Pianoctel l'année passée, et en janvier, décembre de l'année passée et janvier cette année. C'était une exposition de peinture, exposition de dessin aussi. On était trois. Voilà, on a partagé l'espace et c'était assez chouette. L'ambiance est très conviviale. Moi, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment chouette pour Marolles, justement. Il y a pas beaucoup de cafés comme ça, de cafés thématiques, je veux dire. Il y a pas de clients qui vient, qui est juste bien pour le bar, juste pour boire, je veux dire, consommer. Ici, il y a une thématique, les gens viennent, ils communiquent, ils viennent pour quelque chose, pour l'exposition.
Il y a eu des collaborations où vous avez appris que le Pianoctel allait bientôt peut-être fermer. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous?
Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, c'est bout de la rue Haute. La rue Haute, il faut savoir qu'il y a une problématique ici, que jusqu'à l'hôpital de Saint-Pierre, vers cathédrale, vers la rue du Renard, il y a beaucoup de passages, il y a des magasins assez chouettes, il y a des magasins vintage, il y a des magasins antiquaires, il y a des magasins et de café et de restaurants assez bons, quoi. Ici, on est un peu seul et je trouve que enlever ce café, c'est encore plus de vider ce coin de la rue qui souffre à cause de non-fréquence.
Bonjour, là ici on est chez Arre et Marge, qui sont les voisins du Pianoctel. Qu'est-ce que vous connaissez du Pianoctel et qu'est-ce que ça représente pour vous le Pianoctel?
Moi, j'ai découvert le pianoctel parce que je travaille chez Art et Marge. Je sais qu'avant, on allait souvent manger le midi, les plats du midi. Maintenant, moi, j'y vais surtout pour boire un café de temps en temps. Et ce que je connais pas bien les gens qui travaillent là, mais je passe de temps en temps pour boire un café ou voir les expos quand il y a des vernissages.
Et là, pour l'instant, en fait, le pianoctel est menacé de disparaître parce que le CPAS a mis fin au bail du pianoctel. Qu'est-ce que ça vous ferait, vous, ce quartier-ci, sans le pianoctel ?
C'est quand même triste parce que c'est un chouette lieu de rencontre. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent en plus le lieu. Enfin, je passe tous les jours devant. Il y a toujours presque quelqu'un devant, dedans. Et dans les vernissages, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet aux gens de se rencontrer. Donc, ça serait dommage que ça disparaisse.
Merci.
Moi j'ajoute qu'on a quand même un lien particulier entre le pianoctel et le Art et Marge Musée, et que c'est vrai que c'est quelque chose. Quelque part, il y a une partie de notre regret qui est qu'on ne peut pas avoir d'espace, on peut vendre des œuvres, on peut pas. C'est une sorte de prolongation qui est importante pour nous, dont on a pu faire des belles collaborations avec le pianoctel, et je pense qu'on pourra encore en faire dans l'avenir. Et que, donc voilà, oui, c'est un lieu auquel on tient et on espère de tout cœur que ça va continuer. Et je pense que c'est vraiment un projet important pour le quartier, à la fois pour les habitants et puis aussi pour d'autres personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément du quartier, mais qui ça leur permet de découvrir quelque chose de particulier de la convivialité bruxelloise dans toute sa diversité.
Voilà, c'est donc un micro-trottoir réalisé par Aline et Gwendoline dans le quartier des Marolles. Moi, j'ai envie de vous interroger un petit peu, monsieur Jolibois. Vous parliez tantôt de vision gestionnaire du CPAS et vous faisiez un petit peu la distinction entre des commerces traditionnels comme des épiceries et des cafés, ce genre de choses, et le pianoctel. Et j'avais l'impression que vous disiez que c'était un petit peu dommage que le CPAS applique une vision gestionnaire à une ASBL dont l'objet est justement un soutien aux démunis, et que, comme disait Aline tantôt, le collectif prend du temps, ça prend plus de temps que des procédures administratives. Je voulais savoir, vous, quel était votre point de vue en tant que membre du CPAS, et aussi je voulais vous demander si vous avez l'impression que c'est un peu un reflet d'une politique plus globale aujourd'hui, qui par exemple à Bruxelles, on le constate, fait des coupes budgétaires dans le cinéma Nova. Est-ce que vous pensez que ça pourrait venir un petit peu de cette atmosphère politique-là aujourd'hui, ou est-ce que c'est trop poussé?
Non, je pense que c'est ça, mais c'est même pour rester dans la partie CPS pure. Oui, c'est devenu une entreprise, surtout pour la partie patrimoine. Okay. Très longtemps, ils ont géré ça comme un gestionnaire de fortune, n'ayons pas peur des mots. Et heureusement, il y a eu un changement quand même au niveau du logement, puisque à la région, il y a eu un changement, le code du logement a changé, et maintenant ils sont obligés de faire des listes, de prioriser, enfin, ils peuvent plus le faire octroyer qui veulent, dans l'ordre qu'ils veulent. Mmh. Je suis pas sûr que ce soit encore totalement opérationnel pour tout, malheureusement. Parce qu'ils contestent fortement cette nouvelle ordonnance. Et donc, voilà, ils étaient dans une logique complètement gestionnaire. Et la réponse qu'on a, nous, et le rapport, donc, il fait même pas deux pages, et c'est si la décision du conseil est de ne pas maintenir la SBL, puisque c'est une cantine, suite au rapport de 2010, donc le bail est devenu un bail commercial. Enfin, vous voyez, c'est tac, tac, tac. Il n'y a pas prise en compte du tout de qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire, et éventuellement même, encore plus loin, c'est si on ne renouvelle pas ça, qui on va mettre là? Donc c'est vraiment juste, parce que la deuxième partie, c'est « et si c'est de maintenir ?» Il y a une phrase qui dit « des commerces de superficie égales sont actuellement loués dans la même rue pour un loyer fixé entre 550 et 1000 euros par mois. » Pouf.
Et donc ce fait-là même de ne pas prévoir une possibilité d'un remplacement, c'est quand même pour le CPAS se tirer une balle dans le pied, c'est par rapport aux missions qu'il a à défendre.
Alors par rapport à la mission, oui, mais comme c'est très compartimenté, et donc le service des propriétés, lui, non, il voit que pour le moment il gagne entre guillemets 50 euros par mois et qu'il pourrait gagner 1000 euros par mois.
Ah, c'est comme ça.
Voilà. C'est effrayant.
C'est ça.
Oui, c'est justement...
Et le nouveau président a pas du tout une fibre sociale comme même ailleurs pouvait en avoir une.
C'est justement ce qu'on craignait, effectivement. Donc, est-ce que vous savez, vous, si d'autres projets pour le pianoctel sont,
sont sur la table pour le moment ou pas? Donc, parce que bon, je veux dire, c'est le fin septembre, c'est pas si loin. S'il y a quelque chose, autant voilà, est-ce que
C'est-à-dire que effectivement, nous. Purement administrativement parlant, et je vais faire autre chose que de l'administratif, mais administrativement parlant, il y a une décision donc du Conseil le 16 mai 2018, suite à ce rapport, qui a été à la majorité de dire, vu ce qu'on a lu, oui, ça paraît logique, mettons fin au bail. Maintenant, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir, que ce soit vous ou moi, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut vraiment un horeca? Là, j'avoue que je n'ai pas les informations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, aider et trouver une solution? Je pense que c'est pas trop tard. Je pense que c'est pas trop tard, mais effectivement, il faut que ça sorte du comité patrimoine et que ça devienne un enjeu social, tout simplement. Or, pour le moment, il n'est pas traité là. Il est traité purement en propriété.
Aline, dans un article paru sur le site de Le Pavé des Marolles et qui a été écrit par toi, je pense, et d'autres, vous dites réduire à néant ce laboratoire de liens, ce lieu si particulier où s'est lentement construite une autogestion qui relève presque de l'intime, ce lieu tentant au mieux de tenir compte du collectif et de ses individualités, c'est qu'à faire vivre notre utopie, nous avions presque oublié qu'elle avait des frontières, que d'autres entités existent avec leur propre langage. Est-ce que tu penses que ce qui se passe aujourd'hui, avec cette fermeture provisoire, on l'espère, du Pianoctel, aurait pu être évité?
Être évité, je sais pas. Maintenant, par après, on se dit toujours qu'il y a peut-être qu'il y a un truc où a tellement fonctionné en autogestion, à devoir aussi, avoir plein de petits trucs comme ça en interne à gérer, du coup et tout. On se dit allez, on essaye de faire fonctionner ça, et puis finalement, toute la société n'est pas à l'image de cette micro-société, et donc je pense qu'il y a d'autres choses dont on aurait dû tenir compte, peut-être aussi avoir un lien plus continu avec le CPAS qui nous laisse les locaux, pouvoir peut-être plus souvent leur faire un retour sur ce qu'on faisait et tout, et que du coup à force d'être dans quelque chose qui se veut non institutionnel, on oublie qu'il y a d'autres institutions autour et que, comme on dit dans l'article, que finalement il y a une sorte de langage commun à trouver, un langage où ils peuvent entendre ce que nous on fait, où nous on peut entendre aussi leur mode de fonctionnement, et que ça peut peut-être déboucher vers un Pianoctel, pour moi, qui continue et qui ne perd pas pour autant son identité.
Surtout que je pense que c'est vraiment ça, il y a un peu de logique, mais je pense pas qu'il faut s'auto-flageller. Je pense que justement l'autogestion, l'organisation participative, c'est quelque chose qui croit fort heureusement, et malheureusement le CPAS ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est très hiérarchisé, et donc effectivement là c'est deux mondes qui ont du mal à se parler, mais la faute vient peut-être d'une partie de chez vous, bien évidemment, Piano Cocktail, mais aussi de l'autre côté. Je veux dire, quand on a des propriétés et qu'on offre, parce que ça a été ça, un local, on essaye de suivre aussi. Donc, je pense que les torts sont extrêmement partagés.
Parce que, par exemple, il parlait, quand vous disiez le rapport, il parlait de la cantine végétarienne qui était donc la Marmite, qui par exemple n'existe plus déjà depuis
plusieurs années.
Ah dans le rapport, on voit qu'il y a des trous énormes, donc on voit qu'il n'y a pas eu de suivi non plus du côté du CPS.
Est-ce que vous pensez qu'un dialogue alors est possible entre le CPS et le Pianoctel?
Oui, alors je pense que le dialogue est possible.
Pour mettre au centre que le Pianoctel est un objet social et non pas commercial. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Je pense que c'est possible, et je pense que la démarche qui a été entreprise est plutôt la bonne, c'est de rencontrer le cabinet du président. J'ai tapé un peu dessus tout à l'heure, parce qu'effectivement je trouve qu'il n'a pas une vision sociale suffisante, mais il a quand même, heureusement, une fibre un peu sociale. Donc je pense qu'il a même d'écouter et de voir la problématique. Donc je pense que c'est la bonne action. De toute façon, maintenant on en est là. Le conseil a statué, donc il y a une décision qui est prise. Le service des propriétés, qui est juste l'administration, ne fait qu'appliquer la décision. Donc là, c'est la bonne porte, c'est de voir à ce niveau-là. Moi, de mon côté, je peux aussi poser la question en conseil, dans un divers, pour dire où est-ce que ça en est, et suivre le dossier de façon particulière, ça je peux faire, et je le ferai. Mais voilà, je pense que la bonne manière, et c'est aussi pour renouer un dialogue, et renouer un dialogue autre que sur des bases purement commerciales, parce que c'est pas ça dont il s'agit aujourd'hui. Oui.
J'aurais une question un peu provocatrice pour vous, Monsieur Jolibois. C'est le CPS que vous avez rappelé sa première mission et vous avez rappelé l'objet social vraiment important du CPS. Est-ce que c'est pas vraiment pour le CPS se tirer une balle dans le pied de pratiquer une politique gestionnaire comme ça? Est-ce que, enfin, ça m'étonne parce que le CPS travaille justement avec d'autres ASBL tels que le Pianoctel, etc. Et je pense que quelque part ça ternit un petit peu l'image du CPS d'avoir des procédures comme ça administratives qui sont appliquées un peu aveuglément comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin,
il y a deux choses. Donc non seulement suivre aveuglément des procédures, mais surtout ne pas suivre un projet social. Moi, je pense que c'est presque la deuxième chose qui me choque le plus. Que le département des propriétés fasse son boulot, bon, moi, je trouve qu'il devrait être plus souple, mais il fait son boulot. Mais par contre, qu'on n'ait jamais suivi depuis 2009 cette institution, enfin, je ne sais pas quelle forme il est, moi, je trouve que ça, effectivement, c'est une faute politique au sens du CPS. Alors qu'ils se jettent une balle dans le pied, le problème, c'est qu'ils vivent eux aussi très en vase clos. Vous parliez que vous étiez peut-être enfermé dans votre bulle, mais eux aussi, ils adorent faire leurs propres projets, parfois en concurrence avec d'autres associations. Ils sont pas tellement dans la collaboration. Et ça, j'aimerais bien que, aux prochaines élections, ça change. Mmh. Que vraiment, on soit dans l'entraide aussi entre associations, entre partenaires qui aident dans l'action sociale, tout simplement.
En tout cas, au Pianoctel, on se remue, hein. Donc, on fait en sorte que les choses avancent. Et la réunion dont vous parliez tout à l'heure, ce sera donc entre le CPS et le Pianoctel, ce sera donc le 22 juin. C'est ça, Aline?
Oui, je pense bien que c'est le 22 juin, oui. Et alors, il y aura aussi le 26 juin à 19h. Une assemblée participative qu'on espère extraordinaire et qui permettra justement qui est ouverte à tous, qui est publique comme d'habitude et qui permettra de faire un retour justement sur les démarches en cours, sur les retours qu'on a pu avoir et voilà, d'être ensemble pour continuer à trouver des solutions.
Moi, j'ai bon espoir. Il y a juste qu'effectivement, il faudra voir au niveau de l'hésitation qui dépendent pas forcément du CPS, comme l'ORECA, etc. Donc, il faudra trouver une formule juridique, parce qu'on en est là, pour que ça marche. Mais ça, j'avoue que je suis pas un expert, mais je suis persuadé qu'il y a des solutions s'il y a de la bonne volonté.
En tout cas, c'est en cours, les solutions par rapport à l'ORECA.
Donc voilà, on est vraiment en droit d'espérer pour l'avenir du Pianoctel. D'après ce qu'on entend ici, ça fait plaisir à entendre. Et je vous propose de terminer cette émission avec la chronique poétique de Gwendoline. Donc Conspiration poétique, la deuxième partie, c'est maintenant.
Fête galante, un recueil poétique édité à compte d'auteur qui à l'époque n'éveillait aucun écho mais remarqué par Rimbaud, Victor Hugo, Théodore de Banville, titré en 350 exemplaires. Une réédition du recueil comportant quelques corrections a été tirée à 600 exemplaires en 1886. Il comprend 22 poésies de formes diverses mais tous divisées en strophes identiques à l'exception de l'un ou l'autre poème. Le titre suggère une atmosphère festive. C'est un songe nocturne, sous une pâle lumière bleue, léger, comme des membres de personnages fantomatiques et impalpables dansant un paysage spectral. C'est le paysage d'une âme. Harlequin et Colombine, délicats sous leur déguisement, tournent dans un décor de jets d'eau et de parcs mélancoliques. L'art des fêtes galantes est un art musical. Alain Jaubert et Chantal Brodier nous en donnent l'explication aux éditions Folio Plus Classique. Cet art musical est une mélodie vive et cadencée, de la musique avant toute chose. Baudelaire avait pressenti l'importance de la musique, seule capable d'exprimer la part définie du sentiment que la parole, trop positive, ne peut pas rendre. Composé en 1874, mais publié en 1896 dans l'art poétique, Verlaine pose la musique avant toute chose et se dégage de ses prédécesseurs et contemporains par l'idée d'aller à l'encontre de ce qui était recommandé et apprécié jusqu'alors, la rhétorique et la richesse des rimes. L'effet musical est primordial, il doit être recherché encore et toujours. L'imprécision permet de traduire certaines incertitudes et émotions. La musique devient l'expression du malaise et refuge contre celui-ci. On y retrouvera les mots de la fête champêtre. Je vous repartage une recension exhaustive, un résumé de l'analyse nous venant de l'Académie de Rouen. Un simple relevé permet de dégager les éléments les plus caractéristiques du monde de Watteau transposé par Verlaine. 5 éléments de comparaison, les lieux, les moments, les personnages, les costumes et les visages. Le lieu, c'est le parc. Verlaine place ses personnages sous les ramures, sous les grands arbres, sous une charnie, comme dans les décors de Watteau. Dans tous ces décors apparaissent des statues aux motifs érotiques, comme des nymphes endormies ou Vénus désarmant l'amour. L'ambiance relève d'une tristesse, de la mélancolie, par exemple, quand les personnages deviennent presque des ombres dans la lumière mourant. Enfin, on remarquera une dégradation du parc dans les derniers poèmes. Nous avons vu que les moments des fêtes galantes de Verlaine ne correspondaient pas en une simple imitation de celle qu'évoque Watteau. Ce que cherche Verlaine, c'est un type de lumière qui, à la fois éclaire, sans totalement dévoiler. C'est alors sur le terme de mélancolie, thème de prédilection de Verlaine, un état voluptueux, de rêverie désenchantée, mais douce, mêlée à la de tristesse. On y retrouvera l'art poétique dont je vous parlais, une nuance qui mêle la beauté et une impression de vague tristesse.
Excuse-moi, Gwendoline, vas-y.
Les personnages des fêtes galantes ont en quant à eux des masques appartenant au registre de la Commedia dell'arte, de la bergerie et de la fête du 18e. Enfin, Jacques Lemaire fait une comparaison intéressante entre les fêtes galantes et les poèmes saturniens. Je cite « Le style de Verlaine est dans les fêtes galantes plus souple que dans les poèmes saturniens. Ils sont parfois brefs, l'oralité domine, ainsi que de nombreuses tournures familières et quelques archaïsmes donnent une allure de vivacité. Dans les poèmes saturniens, on y retrouvera l'artiste qui maîtrise la langue française. »
Merci beaucoup, Gwendoline, pour cette chronique poésie. Voilà, maintenant, donc, ce qu'on vous propose, c'est une petite musique de Samir Baris, qui chante Paul Verlaine, justement. Les soleils couchants.
Faiblie, verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêve, défilent pareil à des grands soleil couchant sur les grèves. Par les champs, la mélancolie des soleils couchants, la mélancolie berce de doux chants, mon cœur qui s'oublie au soleil. Cœur qui s'oublie au soleil couchant.
Et nous voici de retour sur les ondes de Radio Panique 105.4. C'est Silence Radio. On termine l'émission. Il nous reste quelques minutes. Et pour terminer, je propose de redonner juste la parole aux invités, donc à Aline, à Chantal et à Monsieur Jolibois, pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à ce futur du Pianoctel qui est pour le moment un peu incertain, mais dont on a entendu pendant cette émission qu'il était quand même bien possible que ça continue. Donc vous me parliez de suivi, monsieur.
Oui, c'est-à-dire que voilà, donc je pense que la première chose à faire, c'est que tous autour d'ici, on fasse un suivi. J'espère qu'il va se faire, j'allais dire entre guillemets, automatiquement avec le cabinet du président, mais je veillerai à avoir un retour au minimum le 26 juin de votre part, et puis si moi j'interviendrai au conseil pour savoir s'il y a eu des avancées et si oui, lesquelles.
Aline, peut-être un mot ou.
À chaque étape, depuis notre premier appel qu'on a eu le 5 juin jusqu'à aujourd'hui, chaque fois, je le vois un petit peu plus beau, le futur du Pianoctel en tout cas.
Super,
et que, plaisir. Bienvenue à tout le monde. Donc le mardi 26 juin, 19h au Pianoctel, 304 rue Haute, pour savoir un peu ce qu'il en est.
Voilà. Chantal, tu voulais...
Oui, pour ma part, j'ai l'espoir de refaire un événement. Un concert pour que ce soit une concertation aussi. Et pure anecdote, le 30 septembre, c'est le jour de la Saint-Jérôme.
La pression est sur mes épaules.
Un signe.
Yannick, peut-être un petit mot.
Déjà content en entendant l'émission que ça puisse peut-être ne pas rester fermé temporairement. Et peut-être oui, pour finir la dernière AP ou ce qui se passe pour l'instant au Pianoctel, je trouve que ça montre aussi la motivation de certaines personnes, même de gens qu'on n'aurait pas cru, pour sauver l'endroit. Et ça, c'est super chouette. C'est une étape qui a l'air pas mal pour le Pianoctel, pour son évolution aussi.
Et un tout dernier mot à la grande nouvelle de l'émission.
Sauver l'endroit, oui, et le fait aussi de rajouter que on a bien vu l'intérêt et pour le citoyen et pour le quartier et pour les gens plus démunis. Donc voilà, je trouve que ça a vraiment une raison d'être.
Merci.
Et voilà, Silence Radio, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. Pardon, non, il n'y aura pas le mois prochain, on va se retrouver en août. On vous dit tous au revoir. Je me dis au revoir à moi-même. Tout le monde se dit au revoir comme il veut.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Au revoir.
Merci.